Vous avez eu l'amabilité de me dire que vous étiez viennois et que vous vous souveniez du nom de ma famille. Cependant, je suppose que vous n'avez guère entendu parler de l'étude d'avocat que je dirigeais, avec mon père d'abord, puis tout seul, car nous ne défendions pas de cause éclatante, celle dont on parle dans les journaux, et nous ne cherchions pas à augmenter notre clientèle. En réalité, nous ne plaidions plus à proprement parler. Nous nous bornions à être des conseillers juridiques et à administrer les biens des grands couvents avec lesquels mon père, ancien député du parti clérical, avait des relations étroites. En outre, je puis vous le dire sans indiscrétion, puisqu'aujourd'hui la monarchie relève de l'histoire ancienne, quelques membres de la famille impériale nous avaient confié la gérance de leur fortune. Ces liens avec la cour et le clergé dataient de deux générations déjà. Un de mes oncles était médecin de l'empereur, un autre abbé à Seitenstetten. Nous n'avions qu'à les maintenir. C'était là une activité tranquille et je dirais discrète, vu la confiance qui nous était échue par voie d'héritage et qui ne demandait pour nous être conservés qu'une extrême réserve et une honnêteté éprouvée, deux qualités que feu mon père possédait au plus haut degré. Il réussit en effet à garder à ses clients une partie considérable de leur fortune malgré l'inflation et la révolution. Lorsqu'ensuite Hitler arriva au pouvoir en Allemagne et qu'il se mit à dépouiller l'église et les couvents, diverses transactions et négociations se firent par notre moyen de l'autre côté de la frontière pour éviter au moins la saisie des biens immobiliers de nos clients. Et à ce moment-là, nous en savions plus, mon père et moi, sur certaines négociations politiques secrètes de Rome et de la maison impériale que le public n'en apprendra jamais. Mais précisément le caractère discret de notre bureau, il n'y avait même pas de plaque à notre porte, et la prudence avec laquelle nous évitions ostensiblement tous deux les milieux monarchistes paraissait nous mettre le plus à l'abri possible des enquêtes importunes. Le fait est qu'aucune autorité en Autriche ne se douta jamais que durant toutes ces années, de très importants documents et le courrier secret de la maison impériale passaient presque sans exception par l'insignifiante étude que nous avions au quatrième étage d'une maison. Or, les national-socialistes, bien avant de mettre sur pied leurs armées et de les lancer contre le monde, avaient organisé dans tous les pays voisins une autre légion, aussi dangereuse et bien entraînée, celle des laissés-pour-compte, des aigris et des mécontents. Ils s'étaient insinués en installant leurs cellules, comme ils disaient, dans chaque bureau, dans chaque entreprise, et avaient leur poste d'espionnage et leur mouchard, jusque dans le cabinet particulier de Dollfuss et de Schuschnigg. J'appris, hélas trop tard, qu'elles avaient leur homme aussi dans une petite étude. Ce n'était à vrai dire qu'un pitoyable commis, très peu capable, que nous avions engagé sur la recommandation d'un curé simplement pour donner à notre bureau l'aspect d'une affaire ordinaire. Nous ne lui confions rien d'autre que des courses inoffensives, le soin de répondre au téléphone et de ranger des documents, mais seulement ceux qui étaient insignifiants et sans aucune importance. Il n'était jamais autorisé à ouvrir le courrier, j'écrivais moi-même à la machine toutes les lettres importantes sans en laisser de copie au bureau, j'emportais chez moi les documents de valeur et donnais mes consultations secrètes exclusivement au prieuré du couvent ou dans le cabinet de mon oncle. Grâce à ces précautions, ce mouchard n'avait rien d'intéressant à épier au bureau. Il fallut un hasard malheureux pour que l'ambitieux individu s'aperçût qu'on se méfiait de lui et que toutes sortes d'affaires sérieuses se passaient derrière son dos. Peut-être en mon absence, un messager imprudent a-t-il parlé de Sa Majesté au lieu de l'appeler le Baron Bern, comme il était convenu, ou bien le gredin a-t-il ouvert des lettres contrairement aux ordres reçus. Toujours est-il que Munich ou Berlin le chargea de nous surveiller avant que j'en eusse le moindre soupçon. Ce n'est que beaucoup plus tard, et longtemps après avoir été arrêté, que je me rappelais le zèle subit dont il avait fait preuve dans les derniers temps de son service chez nous, contrairement à sa nonchalance du début, et l'insistance avec laquelle il m'avait offert à plusieurs reprises de mettre mon courrier à la poste. Il eut donc de ma part une certaine imprévoyance, je l'avoue, mais combien de diplomates et d'officiers n'ont-ils pas été trompés par la perfidie de la clique hitlérienne? J'eus bientôt une preuve tangible de l'attention que me vouait depuis longtemps la Gestapo. Le soir même où Schuschnigg annonçait sa démission, la veille du jour où Hitler entrait à Vienne, j'étais déjà arrêté par les hommes de la SS. J'avais par bonheur pu brûler les papiers les plus importants, aussitôt après avoir entendu le discours d'adieu de Schuschnigg, et à la dernière minute, juste avant que les sbires n'enfoncent ma porte, expédié à mon oncle dans une corbeille de linge par l'intermédiaire de ma vieille et fidèle gouvernante, tous les papiers nécessaires à la reconnaissance des titres que les couvents et deux archiducs possédaient à l'étranger. Monsieur B. interrompit son récit pour allumer un cigare. À la vive lueur de la flamme, je remarquai qu'un tic nerveux, qui m'avait déjà frappé auparavant, en tordait le coin droit et revenait toutes les quelques minutes. Ce n'était qu'un mouvement fugitif, à peine perceptible, mais il donnait à tout son visage une expression étrangement inquiète. Vous figurez sans doute que je vais maintenant vous parler d'un de ces camps de concentration où furent conduits tant d'Autrichiens restés fidèles à notre vieux pays, et que je vais vous décrire toutes les humiliations et les tortures que j'y souffris. Mais il ne m'arriva rien de pareil. Je fus classé dans une autre catégorie. On ne me mit pas avec ces malheureux sur lesquels on se vengeait d'un long ressentiment par des humiliations physiques et psychiques. Mais dans cet autre groupe beaucoup moins nombreux, dont les national-socialistes espéraient tirer de l'argent ou des renseignements importants. Ma modeste personne, bien sûr, ne présentait en elle-même aucun intérêt pour la Gestapo. Mais on devait avoir appris que nous avions été les hommes de paille, les administrateurs et les hommes de confiance de leurs adversaires les plus acharnés. Et ce que l'on espérait obtenir de moi, c'était des renseignements. Des documents qu'on tournerait en preuve accablante des transferts de fonds réalisés par les couvents, des documents aussi contre la maison impériale et contre tous les Autrichiens fidèles et dévoués à la monarchie. On se disait, et non sans raison en effet, que les fortunes passées entre nos mains avaient dû laisser de respectables restes dans quelque endroit inaccessible à leur cupidité. Aussi on m'arrêta dès le premier jour pour tenter de m'extorquer ces secrets au moyen de méthodes dont on connaissait les excellents résultats. Les gens de cette catégorie, dont on voulait tirer des renseignements ou de l'argent, n'étaient donc pas mis en camp de concentration. On leur réservait un sort spécial. Vous vous souvenez peut-être que ni notre chancelier, ni le baron Rothschild, dont ils espéraient que les familles livreraient des millions, ne furent enfermés derrière des fils de fer barbelé, mais qu'on leur fit l'apparente faveur de les installer dans un hôtel où ils eurent chacun leur chambre particulière. C'était l'hôtel Métropole, celui-là même où la Gestapo avait établi son quartier général. L'obscur personnage que je suis eut aussi cet honneur. Une chambre particulière dans un hôtel. Peut-on rêver traitement plus humain, n'est-ce pas? Et pourtant, croyez-moi, c'était pour nous appliquer une méthode plus raffinée, mais non pas plus humaine, qu'on nous logeait en personnalité importante dans des chambres d'hôtel particulières et convenablement chauffées plutôt que dans des baraques glacées avec 20 personnes. Car la pression qu'on voulait exercer sur nous pour nous arracher les renseignements recherchés était d'une espèce plus subtile que celle des coups de bâton et des tortures corporelles. C'était l'isolement le plus raffiné qui se puisse imaginer. On ne nous faisait rien, on nous laissait seulement en face du néant, car il est notoire qu'aucune chose au monde n'oppresse davantage l'âme humaine. En créant autour de chacun de nous un vide complet, en nous confinant dans une chambre hermétiquement fermée au monde extérieur, on usait d'un moyen de pression qui devait nous desserrer les lèvres, de l'intérieur, plus sûrement que les coups et le froid. Au premier abord, la chambre qu'on m'assigna n'avait rien d'inconfortable. Elle possédait une porte, un lit, une chaise, une cuvette, une fenêtre grillagée. Mais la porte demeurait verrouillée jour et nuit. Il m'était interdit d'avoir un livre, un journal, du papier ou un crayon. Et la fenêtre s'ouvrait sur un mur coupe-feu. Autour de moi, c'était le néant. J'étais tout entier plongé. On m'avait pris ma montre afin que je ne mesure plus le temps, mon crayon afin que je ne puisse plus écrire, mon couteau afin que je ne m'ouvre pas les veines. On me refusa même la légère griserie d'une cigarette. Je ne voyais jamais aucune figure humaine, sauf celle du gardien, qui avait ordre de ne pas m'adresser la parole et de ne répondre à aucune question. Je n'entendais jamais une voix humaine. Jour et nuit, les yeux, les oreilles, tous les sens ne trouvaient pas le moindre aliment. On restait seul, désespérément seul en face de soi-même, avec son corps et 4 ou 5 objets muets. La table, le lit, la fenêtre, la cuvette. On vivait comme le plongeur sous sa cloche de verre, dans ce noir océan de silence. Mais un plongeur qui pressent déjà que la corde qui le relie au monde s'est rompue et qu'on ne le remontera jamais de ses profondeurs muettes. On n'avait rien à faire, rien à entendre, rien à voir. Autour de soi régnait le néant vertigineux, un vide sans dimension dans l'espace et dans le temps. On allait et venait dans sa chambre avec des pensées qui vous trottaient et vous venaient dans la tête, sans trêve, suivant le même mouvement. Mais si dépourvues de matière qu'elles paraissent, les pensées aussi ont besoin d'un point d'appui, faute de quoi elles se mettent à tourner sur elles-mêmes dans une ronde folle. Elles ne supportent pas le néant, elles non plus. On attendait quelque chose du matin au soir, mais il n'arrivait rien. On attendait, recommençait à attendre, il n'arrivait rien. À attendre, attendre et attendre. Les pensées tournaient, tournaient dans votre tête, jusqu'à ce que les tempes vous fassent mal. Il n'arrivait toujours rien. On restait seul, seul, seul. Cela dura 15 jours, pendant lesquels je vécus hors du temps, hors du monde. La guerre eût éclaté que je n'en aurais rien su. Le monde ne se composait plus pour moi que d'une table, d'une porte, d'un lit, d'une chaise, d'une cuvette, d'une fenêtre et de 4 murs sur lesquels je regardais fixement le même papier. Chaque ligne de son dessin mouvementé s'est gravée comme au burin dans les replis de mon cerveau tant je les regardais. Enfin, commencèrent les interrogatoires. On était appelé brusquement, sans bien savoir si c'était la nuit ou le jour. On vous conduisait à travers des corridors, on ne savait pas où. On attendait ensuite quelque part, sans savoir où on était, puis on se trouvait tout à coup devant une table autour de laquelle étaient assis quelques personnages en uniforme. Sur la table, il y avait une liasse de papier, un dossier dont on ne savait ce qu'il contenait, et aussitôt commençaient les questions, les franches et les perfides, celles qui en cachent d'autres, celles qui cherchent à vous prendre au piège. Pendant que vous répondiez, des mains étrangères et hostiles feuilletaient ces papiers dont vous ne saviez ce qu'ils contenaient. Des doigts étrangers et hostiles griffonnaient un procès-verbal sans que vous sachiez ce qu'ils écrivaient. Mais le plus redoutable pour moi, dans ces interrogatoires, c'était de ne jamais pouvoir deviner ce que, grâce à son espionnage, la Gestapo connaissait réellement de la marche de mes affaires et ce qu'elle voulait apprendre de moi. Comme je vous l'ai dit, j'avais expédié à mon oncle à la dernière minute et par l'intermédiaire de ma gouvernante les documents les plus compromettants. Mais les avait-il reçus? Ne les avait-il pas reçus? Et jusqu'à quel point mon employé m'avait-il trahi? Qu'avait-on pu saisir de mes lettres? Qu'avait-on tiré peut-être déjà d'un pauvre prêtre habilement interrogé dans l'un des couvents que nous représentions? On me questionnait. Quel titre avais-je acheté pour ce couvent? Avec quelle banque étais-je en correspondance? Connaissais-je M. Intel? Recevais-je des lettres de Suisse et de Stino-Kersel? Et comme je ne pouvais me faire une idée exacte de ce qu'on savait déjà, chacune de mes réponses comportait une écrasante responsabilité. Si je reconnaissais quelque chose qu'on ne savait pas, j'envoyais peut-être quelqu'un à la mort. Si j'en taisais trop, je me nuisais à moi-même. L'interrogatoire n'était pourtant pas le pire. Le pire, c'était le retour à ce néant, juste après, dans cette même chambre, devant cette même table, ce même lit, cette même cuvette, ce même papier au mur. Car à peine étais-je seul avec mes pensées, que je me mettais à refaire l'interrogatoire, à songer à ce que j'aurais dû répondre de plus habile, à ce que je devrais dire la prochaine fois pour écarter le soupçon que j'avais peut-être éveillé par une remarque inconsidérée. J'examinais, je creusais, je sondais, je contrôlais chacune de mes dépositions. Je repassais chaque question posée, chaque réponse donnée. J'essayais d'apprécier ce que le procès-verbal pouvait avoir enregistré, tout en sachant bien que je n'y parviendrais jamais. Mais ces pensées, une fois mises en branle, dans cet espace vide, elles tournaient dans ma tête, faisant sans cesse entre elles de nouvelles combinaisons et me poursuivant jusque dans mon sommeil. Ainsi, une fois fini l'interrogatoire de la Gestapo, mon propre esprit prolongeait inexorablement son tourment. Avec autant, ou peut-être même plus de cruauté que les juges, qui levaient leur audience au bout d'une heure, tandis que dans ma chambre, cette affreuse solitude rendait ma torture interminable. Autour de moi, jamais rien d'autre que la table, l'armoire, le lit, le papier peint, la fenêtre. Aucune distraction, pas de livre, pas de journal, pas d'autre visage que le mien, pas de crayon qui me permit de prendre des notes, pas une allumette pour jouer, rien. Oui, il fallait un génie diabolique, un tueur d'âme pour inventer ce système de la chambre d'hôtel. Dans un camp de concentration, il m'eût fallu sans doute charrier des cailloux, jusqu'à ce que ma main saigne et que mes pieds gèlent dans mes chaussures. J'eusse été parqué avec 25 coups dans le frêle apuanteur. Mais du moins, j'aurais vu des visages, j'aurais pu regarder un champ, une brouette, un arbre, une étoile, quelque chose enfin qui change. Au lieu de cette chambre immuable, si horriblement semblable à elle-même dans son immobile fixité. Là, rien qui puisse me distraire de mes pensées, de mes folles imaginations, de mes récapitulations maladives. Et c'était justement ce qu'il voulait. Me faire ressasser mes pensées jusqu'à ce qu'elles m'étouffent et que je ne puisse faire autrement que de les cracher, pour ainsi dire, d'avouer. D'avouer tout ce qu'il voulait, livrant ainsi mes amis et les renseignements désirés. Je sentais que mes nerfs peu à peu commençaient à se relâcher sous cette atroce pression du néant. Et je me raidissais jusqu'à la limite de mes forces pour trouver ou pour inventer une diversion. En guise d'occupation, je récitais ou reconstituais tant bien que mal tout ce que j'avais appris par cœur autrefois, chants populaires et rimes enfantines, passages d'Homère appris au lycée, paragraphes du Code civil. Puis j'essayais de faire des calculs, d'additionner, de diviser des nombres quelconques. Mais dans ce vide, ma mémoire ne retenait rien. Je ne pouvais me concentrer sur rien. La même pensée se glissait partout. Que savent-ils? Qu'ai-je dit hier? Que dois-je dire la prochaine fois?